Top.
J'appuie.
C'est bon.
C'est déjà appuyé.
D'accord.
Bon bah déjà bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver. Ça faisait longtemps, un petit peu pour certaines, vous n'avez pas revu. Alors, on va lire une lettre de Rabbi Nathan pour celles qui connaissent pas. Coucou, ça va ? Pour celles qui ne connaissent pas, c'est des lettres que Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, il écrivait à son fils Yitzhak, d'accord, qui, comme nous tous, on pourrait aller chez notre mère, on pourrait aller chez notre père ou quoi, pour se dire c'est dur, la vie elle est difficile, j'ai des soucis dans tel ou tel domaine, c'est la même chose, d'accord. Et on va voir à quel point ces lettres nous parlent. Et il avait demandé à ce qu'elles soient éditées et qu'elles nous serviraient à nous tous. Donc c'est une partie des lettres, parce que le livre est bien plus gros. C'est une partie qui a été traduite, c'est dans le livre des mots qui guérissent. D'accord ? Donc, alors, ce que j'ai pensé, pour pas qu'on perde du temps, parce que j'aimerais bien qu'on la finisse. Elle est un petit peu longue. J'aimerais bien qu'on la finisse et qu'ensuite, Béhémet, on va essayer de la commenter, d'accord ? Pour qu'on aille jusqu'au bout de l'idée, en fait. Ok ? Donc, je lis. Et on va voir. Alors, nul doute qu'Hachem fera en sorte que tout s'achève. Donc, Aniré, son fils, d'accord, il lui écrivait en lui disant « J'en peux plus, je comprends plus rien, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie ? J'ai que des soucis et je sais plus comment faire. » On s'imagine toutes, d'accord ? Si maintenant on avait une possibilité d'aller chez notre mère, sans se dire non, je ne veux pas l'angoisser, elle est stressée, elle a le cœur malade, elle a le diabète, elle a le cholestérol, je ne veux pas. On s'imagine qu'elle est en très bonne santé, elle est faite en roc, d'accord ? Et qu'on peut tout lui dire et ça ne la touchera pas, elle restera vraiment la même avec un grand sourire et on ne va pas du tout la perturber. Donc il lui écrit comme ça. Nul doute qu'Hachem fera en sorte que tout s'achève comme il faut. De plus, il nous fera grandement bénéficier de sa bonté éternelle, mais il nous faut espérer en la délivrance chaque jour. En outre, je suppose que tu as entendu au moins partiellement les paroles que j'ai tenues au sujet du verset « Abraham aperçut l'endroit dans le lointain ». On déduit de là qu'il ne faut pas perdre de vue la délivrance, comme on le ferait avec une chose que l'on fixe des yeux concrètement, mais seulement de loin. Telle est l'explication de ce verset où Abraham, en chemin pour sacrifier son fils Yitzhak sur ordre divin, se trouva aux prises avec le Satan qui cherchait sans arrêt à l'en empêcher, à l'aide d'incitations et de tentations. Il finit même, pour arriver à ses fins, par révéler à Abraham la vérité, c'est-à-dire qu'il avait surpris un secret pourtant bien gardé en lieu. Ce n'est pas Yitzhak qui est destiné à être élevé en sacrifice, mais bien un agneau qui prendra la place du fils. Mais Abraham lui répliqua que telle est la punition du menteur. Même quand il dit une chose vraie, on ne le croit pas. J'ai rapporté ici les dires de nos sages de mémoire bénie dans le Talmud et le Midrash. Je te demande de t'y référer et de les étudier soigneusement avec toute l'attention requise pour bien comprendre en quoi consistait l'épreuve en question. Or, la Torah s'applique à chaque personne et à chaque époque. Chacun se doit d'y puiser dans son propre intérêt des allusions et de bonnes leçons adaptées à son chemin. Alors, il découvrira dans l'exemple que nous avons pris à quel point le séducteur au mal étourdit à l'aide de ses ruses tout un chacun, même le plus insignifiant des hommes, afin de le repousser à Dieu ne plaise. De notre côté, nous devons nous renforcer contre lui, en lui opposant le puissant espoir et soutien que nous puisons dans la stature de l'ancêtre sublime, qui est notre maître. En effet, en raison de notre immense faiblesse, nous trouvons de la force uniquement cet espoir. Et il faut faire preuve de ténacité, comme si nous voyions l'objet de notre espoir à juste titre, vraiment de nos propres yeux. Certes, on ne le voit que de très loin, à l'instar de notre père Abraham, qui aperçut l'endroit, autrement dit, qui aperçut l'endroit réservé à la construction du temple que les descendants d'Yitzhak hériteront à l'avenir. Mais cette vision s'effectua de loin, c'est-à-dire qu'elle était apparemment loin d'être réalisable, puisque pour l'heure, le père était en train de conduire son fils à l'autel du sacrifice, conformément à la volonté d'Hachem, sans l'ombre d'une pensée alternative. Et pourtant, les deux données s'avèrent absolument incompatibles. En effet, d'un côté, Abraham aperçoit l'endroit du temple que la lignée issue de son fils Yitzhak méritera d'hériter un jour en toute magnificence. Alors que de l'autre, il s'occupe présentement de l'amener là où il doit être égorgé. Et donc Yitzhak quitterait ce monde encore célibataire et sans enfant. Malgré tout, Abraham ne conçut aucune arrière-pensée sur le comportement divin à Dieu ne plaise. En fait, c'est ici que se situe le point fondamental qui consiste à détruire et à chasser toutes les objections et les tortuosités, ainsi que les déséquilibres qui hantent le cœur de l'homme. Parallèlement, il faut faire ce que l'on peut et saisir tout le bien qui est à notre portée, qu'il soit abondant ou non, que l'on fasse beaucoup ou que l'on fasse peu. L'essentiel est d'orienter son cœur vers le ciel. Il convient également de se montrer inébranlable dans sa volonté et de nourrir encore et toujours de bons désirs et de bonnes aspirations. Et enfin, il faut s'appuyer sur la force des justes authentiques et croire qu'ils mèneront assurément à bon terme la délivrance qu'ils ont commencé à faire germer en nous. Et si entre-temps, il arrive ce qu'il arrive, il nous incombe de savoir la vérité, en l'occurrence le fait que nous ne savons rien du tout. N'est-il pas écrit au nom de l'homme le plus sage de la terre, le roi Shlomo ? J'ai cru atteindre la sagesse, mais elle est loin de moi. À noter que ce verset s'apparente à celui qui nous intéresse depuis le début de la lettre. Il aperçut l'endroit dans le lointain. Un autre verset à classer dans le même registre est celui qui nous apprend que Myriam, la sœur de Moshe, pour veiller sur son frère Moshe encore nourrisson, qu'elle avait dû abandonner au bord du Nil, se posta, elle, sa sœur, de loin. On retrouve ici le même genre de paradoxe, puisqu'au début Myriam prophétisa que Moshe devait un jour libérer le peuple d'Israël. Puis elle fut témoin de l'abandon de son frère à la merci des eaux du Nil. D'ailleurs, il est rapporté que ce verset vient faire allusion au fait que Myriam se posta de loin pour voir et espérer une bonne fin, mais qui serait à long terme. On peut trouver un message semblable dans le verset « Elle parcourt de longues distances pour apporter son pain ». De longues distances, précisément, car le pain de la Torah, c'est-à-dire la délivrance et le fruit de ses efforts quand on s'adonne à la Torah, ne peut s'obtenir qu'au bout d'un long chemin, comme on l'a dit plus haut. La suite de l'histoire d'Abraham et d'Yitzhak vient tout à fait confirmer nos dires, car elle se poursuivit par un grand adoucissement du jugement rigoureux quand Abraham reçut l'ordre « Ne porte point atteinte à la vie de ton fils ». Mais tout de suite après, il dut raffermir son cœur dans la confiance en Dieu et garder l'espoir d'un nouveau salut, celui de trouver une épouse pour Yitzhak. Ainsi, il est écrit au début du paragraphe qui suit le récit du sacrifice d'Yitzhak. Après ces événements, ou littéralement, après ces paroles, phrase que Rashi commente ainsi, ces paroles qu'Abraham se disait à lui-même à la suite du sacrifice d'Yitzhak, à savoir, je devrais m'occuper sans tarder de le marier. Alors Dieu lui envoya encore une fois son aide en lui annonçant la naissance de Rivka. Certes, ce fut une excellente nouvelle, mais dont la concrétisation est encore très éloignée, puisqu'Yitzhak était alors âgé de 37 ans, tandis que Rivka, son épouse prédestinée, venait tout juste de naître. Ensuite, Abraham, de retour à la maison, découvrit qu'entre-temps sa première femme, Sarah, avait rendu l'âme, et de surcroît, il ne trouvait pas d'endroit pour l'enterrer. Tout ceci est rapporté par le Midrash pour nous indiquer que cela faisait partie des épreuves d'Abraham, le premier de nos pères. Finalement, si l'on considère l'histoire de notre peuple jusqu'à nos jours, on remarque que l'espoir d'Abraham et de tous nos pères de mémoire bénie ne s'est toujours pas concrétisé. Nous nous trouvons en effet actuellement au niveau le plus bas, dans la mer profondeur de l'exil, et ce, physiquement, spirituellement et matériellement. Que pouvons-nous dire ? Qu'avons-nous à déclarer ? Si Dieu ne nous secourait pas à chaque fois en nous envoyant ses justes authentiques, génération après génération, il s'en serait fallu de peu pour que notre espérance ne soit réduite complètement à néant, Chas v'Shalom. En revanche, à présent, grâce à l'intensité de la force des justes authentiques, par lequel Hachem a fait part de sa délivrance, notre espoir est des plus vifs. Nous ne nous doutons pas que le Créateur achèvera ce qu'il a commencé. Et dans notre petitesse et insignifiance, nous devons élargir notre esprit afin qu'il saisisse les messages de tout ce qui a été développé ici et aperçoive l'endroit dans le lointain, comme mentionné ci-dessous. Il est impossible de tout expliquer par écrit, mais ces lignes contiennent suffisamment de lumière pour quiconque recherche la vérité. Nathan de Breslev.
Bon.
C'est la page, je te reprends depuis le début, elle commence à partir de la page 115. Bon, donc, c'était la lettre que j'ai lue ce matin, parce que tous les jours, c'est le petit doliprane de la journée. Et je me suis dit, c'est dingue comment Akadosh Baruch Hu, il répond à chaque chose, parce que chacun de nous, on a toutes nos soucis, nos problèmes. Et comme il dit, que ce soit au niveau matériel, spirituel, familial, chacun a ses peurs. Parce que d'un côté, tu vis ta vie du jour. Et c'est vrai que des fois, ça fait peur. Tu vois, tu vois la situation et tu te dis, mais comment je vais faire ? Comment on va s'en sortir ? Et Bémet, qu'on voit que l'histoire d'Abraham, elle est incroyable. Comment d'un côté, il lui a dit, tu vas avoir un fils. Ce fils, il va donner naissance à un peuple. Et d'un autre côté, il va pour l'égorger. C'est énorme, ça veut dire c'est incompréhensible en fait. Et pourtant, quelle a été la réaction d'Abraham Avinu ?
Il est allé.
Il y est allé, mais pas seulement. Regarde, nous des fois, on peut aller quelque part, on peut faire la chose, mais dans quel état on le fait ? On pleure, on est stressé. On est angoissé, on est très énervé. Agnès, tu dis, il était confiant. Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas confiant ? Pourquoi est-ce que nous, tous les jours de notre vie, est-ce qu'il y a un jour qu'on arrive à passer sans birla, ça veut dire avoir même pas l'ombre d'un souci ?
Non.
Et pourquoi ? Est-ce que cette peur, la peur de quoi ?
C'est un manque de confiance. En
c'est un manque...
Hein?
C'est un manque de confiance en Akadosh Baruch Hu parce qu'on n'a pas foi en réalité que Hachem, il a fait des promesses. Hachem, il nous a fait des promesses. Et nous, eh ben, le Yetzer Hara, il vient à chaque fois et il nous fait douter de la promesse. Mais regardez comment Abraham a vu nous. Malgré qu'il est parti, malgré qu'il a été, à aucun moment,
il
s'est dit, mais attends, un problème dans l'énoncé, ce n'est pas possible. D'un côté, Hachem, il m'a dit, ton fils, il va être, si Dieu veut, il va amener la naissance. Il va vivre. Mais d'un autre côté,
je vais aller le tuer.
Comment c'est possible ?
Il le met à l'épreuve.
Il le met à l'épreuve. Et toi, il ne te met pas à l'épreuve, Hachem ? Et moi, il ne me met pas à l'épreuve tous les jours. Et pourtant, on n'arrive pas. Alors oui, on a un petit peu, d'accord, parce que c'est dans notre ADN. Ce que nos patriarches, sachez une chose, toute cette foi qu'on a aujourd'hui, d'accord, toute cette force qu'on a, tout, ça vient de nos patriarches et de nos matriarches. C'est-à-dire, ne te dis pas, c'est oui, parce qu'ils ont été, mais tellement éprouvés dans leur vie, franchement.
Ils ont une telle confiance.
Et une confiance incroyable, que c'est ce qui est resté en nous. Parce que si tu regardes, d'accord, la vie de nos patriarches et nos matriarches,
ils en ont tous pris. Hein.
Franchement, ils se sont pris des claques, mais des grosses.
Ouais.
D'accord ? Il n'y en a pas un, tu vas dire, tu sais quoi ? Il a vécu le shalom bayit de fou. Non, pas du tout. Chacun, il a eu ses histoires. Tu ne peux pas dire qu'ils ont eu des enfants... tu vois, Leicester, ça veut dire...
Ouais.
Qui aurait pu, de nous, rien que nous, d'accord ? On ne va même pas aller voir les copines. Qui aurait pu avoir un fils comme Ishmael ou comme Esav?
Ouais.
Tu te suicides. Tu te suicides. Tu te dis, mais c'est pas possible.
J'ai pas fait ça.
Comment c'est possible une chose pareille? Tu serais en train de prendre matin, midi et soir Prozac. Tu pourrais même pas dormir de la nuit. Tu serais en train de dire à ton mari, tu vois, c'est à cause de toi, parce que tu es comme ci, parce que tu es comme ça. Parce que c'est toujours comme ça, d'accord? Quand il y a un enfant qui va pas... Il y a toujours un des deux, il est comme ça à cause de toi, et la situation, elle est comme ça. D'accord ? Chacun, ça veut dire, si on avait eu un enfant comme nos patriarches, ils ont eu, on aurait été vraiment terrorisés, tétanisés, on n'aurait pas pu. Si on avait dû voir ce qui arrive avec les parents, les familles, franchement, tu prends une belle fille, tu prends pour femme, d'accord ? Une belle fille, et que tu vois que le père... Donc, le beau-père, c'est un escroc. Il fait souffrir ton fils. Qu'est-ce que tu dis ? Mais divorce. Divorce ! Eh ben non. Non, non. Yitzhak, il n'a pas dit à Yaakov, divorce. Et pourtant, il y avait des raisons. Son beau-père, c'était un escroc de première envergure. D'accord ? Il a fait travailler, il lui a menti, il lui a mis une autre femme à la place. Et qu'est-ce qu'il n'a pas passé ? Ils se sont tus. Quelle force.
Ah, c'est du bitarone absolu. Ça.
C'est du bitarone absolu, mais regarde, à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui est merveilleux ici ? C'est que nous sommes là. Nous sommes là grâce à eux. Tu crois quoi ? Ils auraient très bien pu dire, écoute, c'est quoi, j'abandonne, laisse tomber, c'est trop. Attends, Hachem, tu sais quoi, t'es en fait un grand blagueur, tu joues, du matin au soir, tu joues avec nous, mais moi, j'ai pas envie de jouer, ça m'énerve. Tu te moques de moi, j'arrête, j'ai plus de force, je suis fatiguée. Non ? Ils ont pas lâché. À aucun moment, ils ont pas lâché. Pourquoi ? Parce que justement, ils voyaient de loin. De loin, ils voyaient déjà de la délivrance. Et c'est ça la force. La force, c'est que ne regarde pas l'instant juste maintenant présent et tu gardes, tu vois, tu restes enfoncé dans ton problème. Dis-toi, bon, ok.
Mais il y a quand même une chose, c'est que Hachem, par exemple dans l'histoire d'Abraham,
oui.
Il lui a fait voir les deux chemins. Il lui a dit d'un côté, ton fils va être va avoir une très grande descendance, donc il va vivre, et donc il va. Et de l'autre côté, il va avoir, tu dois l'égorger. Donc d'un côté, Hachem il donne,
ouais, et nous,
il va donner, il lui, voilà. Il, c'est-à-dire, alors
moi,
après, c'est quoi qui va se passer dans les deux là, ça donne du courage parce que tu te dis,
bah dis donc,
je
quel
sais
courage.
Pas. Non mais bah, d'un côté, imagine.
Attends, deux secondes. Là, tu parles parce que tu as lu l'histoire, tu la connais par cœur.
Non, mais lui, il le sait. À ce moment-là, Hachem, il lui a dit.
Il lui a dit quoi ?
Il lui a dit, ton fils va être le meneur d'une très grande lignée, et d'un autre côté, tu vas le tuer. Alors oui, il y a un paradoxe. Tu sais pas ce qui va se passer. Abraham ne sait pas. Il a le bitachon de dire, oui, tout va aller bien. Oui, c'est sûr, c'est la volonté d'Hachem. Mais d'un autre côté, il lui a montré quelque chose. Donc, tu sais pas dans quel chemin.
Oui, mais tout va bien,
mais tu sais pas dans quoi. Oui, il y a le paradoxe. Mais nous, quand on a un souci, on a le souci.
Non, tu as toujours le choix de prendre une direction.
Non, quand tu as un vrai souci, alors après, tu as la émouna et tu te dis, oui, ça va aller, il n'y a pas de nana. Mais tu l'as pas. Tu le vois pas de l'autre côté. Tu ne vois pas la vision.
Mais
tu ne vois pas le choix.
Tu ne vois pas.
Tu l'espères. Tu le souhaites. Tu pries. Mais tu ne le vois pas. Tu ne vois pas. Là, dans plein de cas dans notre histoire, à chaque fois, ils avaient par prophétie le chemin mauvais et le chemin. Myriam. On lui dit, ton frère, ça va être le délivreur d'Israël. D'accord. Et d'un autre côté, je le jette à la mer, maintenant. Je sais pas. Mais il y a quand même un petit truc. Ouais, je sais pas quel chemin, mais ça peut être ça. Nous, quand on a un souci, alors on a la émouna, on a la foi, on prie, on a plein de gens magnifiques autour de nous, des rabbanites, qui vont nous dire, t'inquiète pas, Kol Letova, vis-le à Kol Letova, t'inquiète pas, tout va bien, tout. Alors, t'as la émouna, on a plein de émouna. Mais d'un autre côté, oui, d'accord, ok, mais
tu as oublié quelque chose de fondamental.
Vas-y. Ouais.
Mais Hachem, il nous a fait une promesse. Il va y avoir Mashiach.
Nachon. Alors, donc, on a chacun notre Mashiach.
Tu as tout compris.
Alors, si
Rabbi Nathan, il avait dit justement aux gens, il avait dit, vous attendez tous Mashiach. Moi, j'ai déjà reçu Mashiach. C'est quoi Mashiach ?
C'est notre délivrance.
C'est quoi ?
C'est la délivrance.
Oui.
À
chacun. Tu peux la vivre, ta délivrance, comme elle t'a dit à chaque instant de ta vie.
Non.
Pourquoi ? Parce que si justement, tu es consciente que Hachem te fait vivre ça, mais pas pour dire maintenant, allez, encore une épreuve, super, vas-y, je la laisse bosser et moi, je me détends en attendant. Non, je t'envoie une épreuve et encore une épreuve. Mais pourquoi ? Parce que la finalité, c'est ta délivrance éternelle. C'est t'emmener vers la tchouva du cœur. C'est que tu te connectes avec Hachem. Tu comprends ce que je veux te dire ? Donc, toutes ces souffrances, tous ces petits mots qu'on a, chacune, elle a ses mots, d'accord ? Et quand je dis petit, pourquoi ? Parce que si maintenant chacune, elle était capable D'accord. C'est très dur. Mais si chacune était capable de faire une sicha traverim, la sicha traverim, c'est une discussion comme ça avec en ami, mais c'est pas obligé avec sa copine. Ça peut être même avec quelqu'un que tu connais pas, mais que tu vas, je sais pas, tu vas ouvrir ton cœur, tu vas être sincère. Tu vas pas te dire maintenant.
Même attends, avec quelqu'un qui t'aime pas.
Avec qui tu veux. Sûr. Avec qui tu veux.
C'est encore plus difficile.
Je vais t'expliquer une chose. La sicha traverim, elle est avec qui tu veux. Mais si maintenant chacune, elle commençait à raconter, d'accord, ce qui la tourmente, ce qui la perturbe, ce qui lui fait mal. Mais tu verrais que celle d'à côté, elle te dirait non, mais c'est, t'inquiète pas. Parce que elle a une force en elle. Tu comprends? Elle vit pas la même situation que toi. Et elle va pouvoir te ressortir. Tu comprends ce que je veux te dire?
Je suis d'accord avec toi, mais regarde. Ce que je voulais te dire, c'est que si, par exemple, aujourd'hui, on a un souci. Je vais parler d'un souci normal, par exemple, un souci de Parnassa. D'accord? Te dis, j'ai rêvé. Je vais gagner au loto. Je l'ai rêvé. Mais tellement, c'est, je sais pas moi, un grand sadique qui est venu. Je l'ai rêvé. Donc, ça veut dire, tu le prends comme argent comptant. C'était trop vrai, mon rêve. Et le lendemain, t'as les huissiers à la maison, Khazve Khalila, ils t'embarquent la maison. Alors tu peux avoir le bitachon parce que tu dis non, non, je sais, je l'ai rêvé. Donc t'as eu comme Abraham, un petit, en rêve, en sicha traverim, l'homme échané, quelqu'un de. Hachem, il est venu, il t'a donné quelque chose sur lequel tu dis je sais que je vais passer par quelque chose, je sais que ça va se finir bien. Mais tu as vu aussi un petit peu la lumière de l'autre côté. Là, ils ont eu, Baruch HaShem, tous ces tzadikim, à chaque fois dans notre histoire, il y a eu le paradoxe, mais il y a, quand on est venu annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un fils, elle a rigolé. D'accord, elle a rigolé, c'est normal qu'elle rigole. Elle a 90 ans, tu vas être ton mari, il a 100 ans, tu vas faire un enfant. Ok, elle a entendu, elle a rigolé, mais même si elle y croyait pas, parce que physiologiquement, on va dire que c'est pas possible, d'accord? Elle a entendu.
Donc, elle non, mais dit, surtout que pas. C'était pas parce qu'elle était vieille, c'est parce qu'elle avait pas d'utérus.
Sur en plus, voilà. C'est-à-dire, donc, ça veut dire le miracle du miracle. Mais alors voilà, une femme, on lui dit, donc même si t'y crois pas, parce qu'on est trop dans le monde matériel de, par exemple, scientifique, comment tu vas avoir un enfant, j'ai pas d'utérus. Non, mais attends. Mais d'un autre côté, il y a un ange. Il lui a dit, tu vas avoir un fils. Alors elle rigole, d'accord, mais il y a ça. Donc ils ont eu quelque chose qui renforce, qui nous aide dans le bitachon. Ça aide.
Moi, j'ai eu tout le temps la solution avant le problème. Je ne sais pas si mais je te jure que j'ai des solutions qui arrivent, le problème, il arrive derrière.
Pourquoi? Parce que t'as un grand... Alors, t'es un exemple de
bitachon. Comment tu réponds à ça?
Mais c'est incroyable. Je ne sais pas si elle a d'autres.
Je vais t'expliquer.
Mais j'ai eu ça.
Écoute, j'ai envie de te dire, moi, je lis cette histoire. Moi, je l'ai prise pour moi, hein, parce que j'ai fait de beaux doutes cette nuit. Parce que mon fils, il m'a annoncé une catastrophe. Donc, je me suis dit, oh là là, HM, machin. Et ce matin, quand j'ai lu, juste voilà, tout va aller bien, tout ça. J'ai dit, bon, allez. Je me suis, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai dit, mais comment t'es gentil, Rabbi Nathan, que tous les matins, en fait, tu réponds à mes demandes, à mes questionnements, à mes... Incroyable. Parce que, je vais t'expliquer quelque chose. Là, tu lis, quand on a lu, bon, il a été pour sacrifier son fils. Total, on lui dit, non, c'est pas ton fils. D'accord? On lui dit, tu sais, maintenant, comment il s'appelle, Yitzhak, maintenant, il faut lui trouver une femme, il a 37 ans quand même. Ouais. C'est le moment, combien de temps on va attendre? D'accord?
Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il passe de la mort...
À la vie. Attends. 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 Et on lui dit, il faut maintenant que tu le... Et donc, une nouvelle angoisse qui naît en lui. Bon, du coup, je le tue plus. Donc, maintenant, il faut que je lui trouve une femme. Mais il n'y a personne. Comment je vais faire? Attends, deux minutes. Une bonne nouvelle. Rivka, elle naît. Ah, super. Non, mais attends, mon fils, il a 37 ans. Elle a rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le clou final? Tu rentres chez toi à la maison. T'es contente, t'as envie de dire ma femme, tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui, j'ai failli tuer l'autre et total, je l'ai pas tué. Et bah, sauf on m'a annoncé une femme.
Et il va se marier.
Et là, elle arrive. Ah, elle est morte, ma femme. Ça veut dire Leicester, quoi. Et pas seulement elle est morte, t'as pas où l'enterrer. Et vas-y, galère. Mais quelle vie! Quelle vie! De loin. Tu comprends?
En fait, c'est ça.
Il avait vu. Parce qu'il a entendu et il savait. En réalité, notre problème, c'est qu'on n'entend pas les messages.
C'est ça.
On ne veut pas entendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut entendre? On a la solution. Akadosh, j'ai envie de te dire une chose. Quoi? En rentrant à la maison, il la trouve décédée. Non, en rentrant à la... Il a fini la Kedat Yitzhak, d'accord. Bon, il a pas tué. Et on lui dit, il dit donc, nouvelle rossera dans mon cœur. Bon, maintenant, il me reste sur les bras, mon fils. Tant mieux. Il faut que je trouve une femme. Où je vais aller lui trouver une femme à Yitzhak? Il lui faut pas n'importe quelle femme, tu comprends, c'est Yitzhak. Il lui faut la bombe. Bon, allez, le bon parti. Où je vais trouver la bombe? Tu dis, où je vais trouver le bon parti? Comprends qu'avant, c'était tous des païens et des idolâtres. Et où il va aller trouver, lui, maintenant, quelqu'un de bien? On lui dit, ah, tu sais, il y a une petite jeune fille, elle est adorable, machin. Ah, un espoir. Attends, elle vient juste de naître. L'angoisse. Donc, tu vois, allez, on lui dit qu'il y a Rivka, d'accord. Donc, sûrement, il a dû voir par prophétie que dans 3 ans, ils vont se marier. OK. Il veut rentrer à la maison, tu vois. Il a passé une dure journée, Avraham. Il arrive à la maison et là, qu'est-ce qu'il voit? Sa femme, elle est morte.
Tu vois ce que je veux dire? C'est que la prophétie qu'eux, ils ont eue dans le côté magnifique, merveilleux, qu'en fait, il ne va pas tuer son fils, qu'il va se marier, etc. En fait, cette délivrance, eux, ils avaient le srout qu'on leur... Hachem leur envoyait mamash, tachles. Nous, on doit juste se dire, ça existe et on a la délivrance au bout. Il existe ce chemin, mais on ne sait pas lequel.
Attends. Il te dit juste comme ça. De notre côté, et c'est ça le point essentiel, les copines. Il te dit, de notre côté, nous devons nous renforcer contre lui, contre le Yetzirara, en lui opposant le puissant espoir et soutien que nous puisons dans la stature de l'ancêtre sublime qui est notre maître. Rabbi Nachman, depuis qu'il est arrivé dans ce monde, le désespoir, il n'existe plus. C'est clair. Avant, les gens vivaient dans la dépresse, l'angoisse, le machin, le truc, machin. Lui, il est venu, il a dit, « En yush klal ba'olam. » Il n'y a pas de désespoir du tout dans le monde. Accroche-toi à moi, et moi, je vais faire le job pour toi. Juste accroche-toi. Parce que moi, je vais avancer devant toi. Moi, je m'imagine comme ça, d'accord. Rabbi Nachman, il marche là, vraiment devant moi. Et la vie, c'est quoi? C'est une jungle avec des arbres, des machins, des trucs. Et lui, il passe son temps, tu vois, à faire comme ça. Voum, voum. Et il me dit, allez, avance, c'est bon, je t'ai déblayé le chemin. Maintenant, attends 2 secondes, Steph. Maintenant, tu comprends bien que quand même, il y a une part de travail. Ça serait trop facile si on nous enlevait. Ça veut dire tout libre arbitre. C'est plus, donc il n'y a plus de jeu. Le jeu, il s'arrête. Le jeu, c'est le libre arbitre. Est-ce que je pense avec Hachem ou je pense sans Hachem? Donc, nous, on doit s'accrocher au tzaddik qui a fait une promesse, les copines. C'est pas tous les tzaddikim et c'est pas n'importe quel tzaddik. C'est le tzaddik, le yesod olam, le fondement du monde qui a promis. Il a dit, je te promets que je te sortirai de ton enfer. Il a fait une promesse. La parole d'un tzaddik, c'est pas stable. Donc, pareil pour nous. Tu vas passer parce que tu vas... Mais tu sais quoi? Regarde la photo finale. Tout va s'arranger. Et je vais te dire encore plus que ça. Tu peux dessiner ton histoire. Toi, tu dois dire, la photo finale, elle est très bien. C'est tout ce que je sais. Pourquoi? Parce que j'ai une promesse. J'ai la promesse d'abord qu'il va y avoir Mashiach, que Hakadosh Baruch Hu nous a... D'accord? Et j'ai la promesse que Rabbeinu, il t'a dit. Il t'a dit, moi, je marche devant toi. Moi, je vais tout organiser. Je vais te tirer de l'enfer où tu es. Dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci. Et tu as le choix. Soit tu veux vivre ici en enfer. Tu prends Hachem et la promesse du tzaddik, tu la mets dans le kajibi et puis tu dis, bon, allez, j'avance toute seule. Soit tu dis non. Hachem, il est là, il a fait une promesse et Rabbeinu, il est venu. C'est un cadeau qu'Hachem, il nous a envoyé. C'est un cadeau qu'il nous a envoyé, Hachem, en nous envoyant Rabbeinu. Tu te rends compte, il nous a offert le Tikkun HaKlali. comprend bien que le Tikkun HaKlali des 10 psaumes, d'accord, qui répare tout, tout, spirituellement, matériellement, tout, tout, tout. Tu comprends que le Tikkun HaKlali, mais de tout temps, les tzadikim l'ont attendu. De tout temps, ils étaient là en train de dire, mais comment on va faire pour réparer la faute ? Il n'y avait pas. Non. Si tu lis. Même mais justement, mais le Hari HaKadosh, il a cherché. Et il a réussi à trouver deux. L'autre, il a reçu un Rabbeinu. Il a payé, d'accord, de sa vie, celle de ses enfants. Il nous a donné les 10 Tikkun HaKlali en nous disant ça, c'est la réparation. Tu comprends qu'avant, les gens, ils étaient. Mais oui, ils étaient désespérés parce que le type, il faisait, d'accord, Zera Levatala. Ok, c'est la semence en vain. Tu vas me dire, bon, ben, je m'en fous, c'est pas moi. Si, c'est toi. D'abord, parce que qui a engendré ? C'est aussi toi. Tu vas me dire qu'il ne regarde pas. Bon, ok, tu peux jouer avec tout ce que tu veux, mais elle m'a la saute. Tu as engendré ça, d'accord ? Mais tu t'imagines qu'avant, les gens, ils, ça veut dire, ils pouvaient faire Shabbat, Kashrut, Tzniut, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, sur ce problème-là, il n'y a pas de tchouva. Mais tu sais quoi ? Va te pendre ! À quoi bon qu'il continuait de vivre en fin de compte ? Puisque tu sais que sur un point, il n'y a pas la tchouva. Alors qu'en réalité, c'était pas ça. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la tchouva avant même la création du monde. Et avant la tchouva, il a créé la tfila. Ça voulait dire qu'en réalité, il y avait quelque chose. Seulement, on n'était pas capable encore de recevoir cette lumière. Et puis Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, d'accord, il s'est dit, c'est le moment. J'envoie Rabbi Nachman dans ce monde, d'accord, c'est un cadeau. Pourquoi ? Parce que si tu n'avais pas la pensée de Rabbi Nachman, tu sais quoi, maintenant, enlève tout ce qu'on dit. Tout ce que vous entendez aujourd'hui, quels que soient les rabbins, tout ce qui est rabbin ou rabbinite un petit peu optimiste, ou même un peu beaucoup optimiste, dites-vous une chose. Même si vous ne le diront pas, ça vient de la pensée de Rabbi Nachman. Reprenez, d'accord, des, je ne sais pas si ça existe, des cours qu'on peut voir sur les internets d'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Ces mêmes personnes, ces mêmes rabbanim, d'accord, ils te disaient, tu vas mourir en enfer. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont retourné leur veste ? Mm-hmm. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
La Torah avant, quand j'étais jeune, très jeune, tu vois... Même avant que Rabbi Nachman est venu sur Terre, c'était une Torah très triste. Les Juifs, ils étaient tristes.
Bah oui.
Ils n'étaient pas joyeux. Même avant le Baal Shem Tov. On a commencé à être joyeux après le Baal Shem Tov et très joyeux après.
Ils n'avaient pas du tout des menailles.
Après le Baal Shem, après le Baal Shem Tov, bah oui, tout était. D'ailleurs, tu vois bien quand tu vas en Ukraine, tu vois un peu le comment c'est triste, c'est machin, les gens sont comme ça. Bon, avant les gens, d'accord, ils vivaient en détresse constamment. Rabbeinu, il est venu, tu t'imagines la bombe qu'il a envoyée. Il est venu nous dire à nous tous...
Tout va bien.
Ne vous inquiétez pas. Moi, rien qu'accrochez-vous à moi. C'est quoi s'accrocher au tzadik ? C'est en essayant de suivre ses conseils. Accroche-toi au tzadik. Moi, je vais tout remettre en place. Moi, je vais faire tchouva pour toi. Ne t'inquiète pas, je marche devant toi. Ne te désespère jamais, ni d'une situation, ni de toi-même, ni de ce qu'il peut y avoir autour de toi. Ne te désespère pas. Je te promets que je vais te sortir de l'enfer. Il te dit, à la fin, tout va se remettre, tout va s'organiser pour le bien. Quand quelqu'un il vient te dire ça,
tout va bien.
Tu te dis, bon, écoute, tu sais quoi, je comprends. C'est comme maintenant une femme qui est en plein accouchement. C'est sûr qu'elle est en pleine... Elle est en pleine... les tsirim, comment on dit les tsirim en français ? Elle est en pleine contraction. Elle va mourir, la fille, elle n'en peut plus. Mais elle sait qu'il y a une suite. Ouais. Il y a une suite, il y a un petit bébé, si Dieu veut, qui va arriver. Bezrat Hashem. Elle ne se dit pas, oui, mais le bébé, il va être malade, il va ça. Il y a un bébé d'abord qui vient, et après on verra la suite. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ça la vie. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable, d'accord, d'entendre Hachem tous les jours. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il nous parle. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie, comme tu dis, la solution avant le problème.
Non,
Regarde, regarde encore une fois. Regarde encore une fois, d'accord ? Le tikkun haklali. Mais, alors je ne dis pas, bien sûr qu'avant, il y avait, bien sûr qu'il y a toujours eu le Zera Levatala, ce n'est pas du tout une originalité qui a été créée au XXe siècle, d'accord ? Ou XXIe. Ça existait. Mais tu imagines notre génération à nous, sans le tikkun haklali, comment on fait ?
On ne peut pas réparer.
Tu ne peux pas ? Ça veut dire que tu aurais, comme à l'époque, on serait tous très, très, très déprimés.
Bah oui, puisque tu sais que tu ne peux rien réparer.
Tu ne peux rien réparer. T'as pas, tu ne peux pas faire tchouva. Donc tu te dis, mais pourquoi faire, je fais Shabbat ? Pourquoi faire, je fais ça ? Puisque à la finale, il n'y a pas de tchouva. C'est-à-dire qu'à la finale, je vais me faire déchirer.
Alors autant que je profite maintenant, je m'en fous.
Exactement. Alors que là, tu gardes espoir. Tu te dis, mais écoute, je sais une chose, c'est que Rabbeinu, il va s'occuper de moi. Il ne va pas m'abandonner. Il a promis. Je m'accroche à cette promesse. Je m'accroche à cette promesse et je tiens grâce à ça. Je garde le moral grâce à ça.
En fait, c'est ça.
Tu comprends ? Parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut te faire du matin au soir ? Le Yetzer Hara, il veut te dire, tu sais que ça va très mal dans ta vie. Ton mari, c'est la catastrophe. D'accord ? Tu vois l'histoire du mari, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce type, en fait ? Qu'est-ce qu'on va tirer de lui ? C'est soit il est contre toi, soit il ne veut pas faire la Torah, soit il est plongé dans toutes sortes de ta'avot, soit il est parti, on ne sait pas où. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu finis avec le mari, tu prends les gosses. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu as toujours un enfant,
ouais,
d'accord, qui te fait travailler plus que les autres. Mais ça, cet enfant-là, il faut le chérir parce que c'est grâce à lui que tu vas faire tchouva. Sache-le.
Ouais.
Vraiment.
Je... Qui te met les nerfs tout le temps.
C'est pas qui te met les nerfs. Tu sais quoi ? Je vais te dire, c'est pas qui te met les nerfs. C'est pas qui te met les nerfs.
Tu domptes ta colère.
Je vais te dire, c'est pas qui te met. Je vais te dire, à un moment donné, tu vois, c'est pas qui te met les nerfs. C'est qu'à un moment donné, c'est que tu vois tellement pas la suite. Elle te paraît tellement triste et sans issue. T'es passé à une autre étape, c'est-à-dire tu vois plus les nerfs, t'es amorphe, tu dis bon, je sais pas.
Parce que avec le même gosse, tu passes d'un épisode à l'autre. Hein.
Oui.
Mais
il faut essayer. Je vais te dire une chose, il faut essayer, d'accord, de à un moment donné de dépasser, de te dire bon, tu sais quoi, ça c'est mon enfant.
Quoi qu'il arrive.
Ça c'est sûr.
Des fois je rêve de la suite, je me dis.
Non mais justement, regarde, ça c'est mon enfant. Avec toute la difficulté qu'il y a, d'accord ? Mais tout de suite, tu te rattaches à Hachem, tu dis, bon, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé cet enfant, donc déjà, il n'y a pas d'erreur.
Ouais.
Hachem, il ne fait pas d'erreur.
C'est déjà bien.
Donc, là, comme il est l'enfant, d'accord ? Ça veut dire, c'est une volonté d'Hachem, et chez Hachem, il n'y a aucune erreur. Donc, oui, je suis face... un enfant difficile, un enfant loalénou, un problème, n'importe quoi. C'est la vraie vérité. On ne va pas changer les données. C'est une réalité. Mais au loin, je garde espoir. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il va s'occuper de chacun de nous. Reprends ta vie à toi. Comment tu étais quand tu étais petite ? Tu étais tellement...
Moi, j'étais sage.
Hein. D'avoir ton mari, peut-être. On est, tu sais, tu as bien dit, Agnès, on était peut-être sages, mais bémettes qu'on était des paumées ambulantes. Ça veut dire, mais des fois, moi, quand je pense à ma vie, je me dis, mais on était livrés à nous-mêmes. Comment on a été, mais sauvés et repêchés ?
C'est vrai.
On était livrés à nous-mêmes. C'est vrai, nos parents. Mais quoi déborder ? On vient quand même d'une génération, d'accord, où nos parents, à part de manger, ils revenaient tous. Ils sont venus ou de Tunisie,
de Tunisie. Ou alors la Shoah.
Chacun, il avait. Mais eux-mêmes, ils étaient débordés par leur vie. Ils étaient déprimés. Ils savaient pas quoi faire de leur vie. Et comme tu dis, ils ne pensaient qu'à une chose, c'était se refaire une situation. Nous, les gosses, on était livrés à nous-mêmes. Regarde comment et regarde et regarde. D'accord ?
Bon, on s'en est tous.
Comment le parcours ? Bon, grâce à Dieu, Baruch HaShem, d'accord ? On est super.
Ouais. C'est vrai.
On est super.
Et on est même une grosse génération de tchouva déjà.
On est une génération de Chazara Bitchouva et Baruch Hashem. Le simple fait qu'on se rappelle qu'il y a encore Dieu, d'accord, dans cette obscurité dans laquelle on vit. Mais on est de folie. On est de folie. Tu te rappelles encore qu'il y a un Dieu?
Non, surtout qu'à cette époque-là, nos parents, dans la plupart des cas, ils étaient à peine traditionnalistes. Ouais, ouais.
Bien évidemment. Qui sait qu'il n'y avait pas le kidouche d'un côté, et la télé ouverte et... voilà. D'accord.
On mangeait cachère à la maison, mais dehors, on s'en fout.
Donc, tout le monde a vécu ça. Tout le monde a vécu ça. D'accord ? Si maintenant, on dit, tu sais quoi ? On a vécu ce qu'on a vécu, et nos grand-mères, peut-être, ou nos arrière-grand-mères, elles voyaient ça, elles se disent, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants ? Mais comment on va faire ? Hachem, il s'occupe de chacun de nous. À Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on se rappelle à chaque instant. Il y a un film, d'accord, c'est un jeu, c'est un film, c'est un feuilleton, appelez ça comme vous voulez. Il y a un jeu qui a débuté depuis le début de la création du monde. Il va se finir, Bezrat Hashem, entre guillemets, d'accord, à l'avènement du Mashiach. Pas qu'il n'y aura plus rien, mais ce sera différent. Donc, on est obligé de passer par ces étapes. Alors, comme dans tout jeu, dans tout film, dans tout ce que tu veux, d'accord ? Il y a des moments, il y a de l'action, il y a du suspense, des fois tu as envie de pleurer, des fois tu rigoles. C'est comme ça, c'est la vie, c'est tout pareil. Eh bien nous, c'est pareil. Tu fais partie d'un film, d'accord ? Il est sectionné en feuilleton, parce que sinon ce serait trop long, on ne pourrait pas suivre le truc. Eh bien, chacun, il a sa séquence. Et tu te dis, je sais une chose. À la finale, tout va très bien se passer.
Pourquoi beaucoup d'enfants. Voilà.
Pourquoi est-ce que je dois m'inquiéter ? Rabbeinu, il a dit une chose, il a dit, pourquoi vous vous inquiétez puisque je marche devant vous ? C'est vrai ça. Il a dit, il a fait des promesses. Après, tu peux dire, bon, j'y crois pas. Ok, bah, tu sais quoi, va, ne me crois pas et continue ton Prozac.
Devant nous pour tout le monde, tous les juifs ou tous ceux qui ont été le voir à Oubal.
Alors, c'est ça l'histoire qui est merveilleuse. Non, Steph, je veux que tu saches. Je veux que tu saches une chose, c'est que Rabbeinu, il est venu dans ce monde pour le peuple juif, pour l'ensemble du peuple juif. Tout le monde. Il s'occupera de tout le monde et je vais te dire plus que ça. Chacun. Alors, tu vois, là, je vais te dire quelque chose. C'est comme une prophétie, d'accord ?
J'adore.
Ouais, c'est vrai ? Non, parce que moi, je le vois. Moi, je le vois. C'est là, devant moi. Je sais que chacun va passer par ce qu'il doit passer pour arriver chez le tzaddik.
D'accord.
Voilà. Parce que ça, c'est la photo finale. Puisque une fois que tu es attaché au tzaddik, d'accord ? Alors, quand je dis qu'il va arriver chez le tzaddik, ça veut dire pas obligé d'aller là-bas. À travers ses livres, à travers ses conseils, tout ça, tu t'attaches au tzaddik, d'accord ? À partir du moment où tu t'attaches au tzaddik, ça y est, le tzaddik, il va s'occuper de toi. Oui, ça veut dire, tu t'attaches au tzaddik. Et je vais te dire une chose, pourquoi tu vas t'attacher au tzaddik ? Il y a plein de tzaddikim. C'est pas qu'il y en a... Il y a plein de tzaddikim, mais... Tu as besoin, d'accord, du tronc central, du régénérateur. Tu as besoin, ça veut dire, de t'attacher, parce que le tzaddik, c'est toutes les neshamot. Il comprend toutes les neshamot, même de tous les tzaddikim. Donc, quand tu t'attaches au tzaddik, c'est comme si tu t'attaches, en fin de compte, à ta centrale. Et Rabbeinu, il ne va pas nous abandonner. Parce qu'il est venu dans ce monde, d'accord, pour que justement, on va recevoir Mashiach dans la joie, dans la bonne humeur, pas les angoisses et machin. C'est fini ça. Puisqu'il a promis, il a dit, ne vous inquiétez pas, moi je vais marcher devant vous. Tout le travail, il est quoi ? C'est de garder cette émouna. Comme un Kadosh Baruch Hu, il avait dit à Abraham Avinu, tu vas avoir un fils, de ton fils va naître une grande descendance. C'est paradoxal, tu comprends ? Ça veut dire, d'un côté, je vais pour le tuer, d'un autre côté, comment c'est ? Je garde cette confiance. je sais qu'on est dans un film, chacun il a sa séquence, il va falloir passer par ce que je vais passer, mais pas parce qu'on veut me faire payer, parce qu'on me met dans un... Non, pour t'emmener véritablement au point final. À quoi sert une vie si tu n'es pas arrivé à ton point final, si tu n'es pas arrivé chez HM, à quoi ça sert? Tu as mangé, bon, d'accord, combien? Tu es sorti, d'accord, combien? Tu avais, t'as voyagé, t'as acheté, t'as fait... Ok, tu sais quoi? La rue entière, elle t'appartient. T'as tout ce que tu veux. Et après, tellement tu es heureuse, tellement ça t'a rempli, mais pas du tout. En plus de ça, on sait, arbe nechassim, arbe dagot. Plus tu es riche et plus tu as des angoisses et des stress. C'est vrai? C'est, je me rappelle, je ne sais plus, il y avait une histoire avec... La bourse, elle avait complètement un crash, et puis il y avait un qui avait volé l'argent de tout le monde. Madoff. Ah ouais, Madoff, exactement. Voilà. Et je me souviens, quand on m'avait raconté ça, je dis, oh, mais c'est les pauvres. Moi, je m'inquiète pas, parce que de toute façon, j'ai rien. Donc moi, ma situation, elle n'a pas changé. J'ai dit, mais les pauvres, tous ceux qui ont investi, qui se retrouvent. Et c'était terrible. Tu comprends ce que je veux te dire? Et Bémet, qu'à ce moment-là, j'ai dit, HM, venez, je te remercie. Parce que je comprends à quel point, en réalité, d'avoir des nechassim, des biens, et des malheurs, mais quel cassement de tête! Quel cassement de tête! C'est-à-dire, tous les jours, tu te lèves avec la rosra. Est-ce qu'on va pas me voler? Est-ce que je vais pas perdre? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais faire? Et ça, où c'est que ça t'emmène? Parce que le problème, ça, c'est important de le savoir, d'accord? Ça t'emmène en général vers la ta'avat mammon.
C'est-à-dire?
Vers l'appât du gain. Ah. Alors, les gens, ils vont dire, non, mais tu comprends, j'ai besoin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu n'as pas besoin, c'est que tu te crées des besoins qui fait que tu as besoin. Et puis tu te dis, non, tu sais quoi, je veux l'héritage pour mes enfants. C'est des bêtises tout ça. C'est des bêtises d'abord parce que tu vois, hein, comme le Madoff qui est venu en plein milieu, qui te dit, ça se trouve, tu as crevé pendant 60 ans, 70 ans, et à la fin de l'histoire, tout s'écroule. Tes gosses, ils vont rester sans rien parce que de toutes les façons. Son fils, Lester.
Lui, il est vivant, il a je sais pas combien d'années.
Alors, tu comprends, ça veut dire, tu t'es travaillé, t'as fait, ça veut dire, tu as oublié, souvent. Ta famille, c'est au prix de quelque chose, ça vient pas tout seul, d'accord? Et tu as, pour un juif, tu as oublié l'essentiel. Toi. Ça veut dire, Nahon, que tu as voulu penser à tes enfants. Tu vas me dire aussi, non, mais tu sais, je voulais faire beaucoup de tzedaka, je voulais donner, je voulais faire... Tu as pensé à tout le monde. Mais tu t'es oublié à toi. Tu as pensé à toi. Qui c'est qui va étudier la Torah? Qui va étudier la Torah à ta place? Qui va étudier? Pourquoi toi? Tu dois dire, moi, je dois penser à celui-là et celui-là. Et, je dois... et toi? Mais toi aussi, tu dois étudier la Torah. Toi aussi, tu vas avoir des comptes à rendre. Tu comprends? Bien évidemment. Écoute,
Imanani Mili.
Si toi, tu ne penses pas à toi, qui c'est qui va penser à toi? Bidouk, comprends une chose. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun ce qu'il a besoin. Si Bémet, on a une foi totale en Akadosh Baruch Hu, on sait qu'à Rosh Hashanah, d'accord, tout est déjà prévu au centime près. Au centime près! Je te promets, c'est dur à dire, mais tu crois que quoi? Parce que tu as été, tu as fait, tu as magouillé, tu as fait, tu as travaillé des nuits entières, tu crois que Bémet? HM, il a dit, bon, voilà, telle personne, je vais lui donner cette année, elle va avoir ça.
Qu'elle travaille un quart d'heure par jour ou qu'elle travaille 10 heures
par jour. Non, Méchané, c'est toi et ta Emouna. Tu comprends? Par contre, le Limouda Torah, c'est ta force de volonté, ça veut dire c'est ta Emouna. Est-ce que Bémet, je crois qu'Akadosh Baruch Hu va me donner? Alors, c'est vrai, tu as fait des très belles actions, tu as fait des très belles choses, c'est magnifique. Mais toi, tu t'es occupé de ton âme? Tu as pensé à ton âme? La charité, oui, mais d'abord chez soi. Si toi, tu ne penses pas à toi, ça veut dire, tu as pensé à donner à celui-là, à faire à celui-là, à faire à celui-là, tu as pensé à tes enfants, tu vas accumuler. Moi, je connais quelqu'un, je crois que vraiment, il est collectionneur d'immeubles dans le monde. Tellement il y en a, il y en a, il y en a, et c'est devenu presque une addiction. Une fois, il m'avait dit, quand je l'ai connu, il m'avait dit, à 40 ans, je m'arrête. 40 ans est passé, 41 ans est passé. Et je lui dis, combien? C'est-à-dire, tu sais quoi? Tu vas mourir, tes enfants, ils vont vivre, ils vont mourir, il y aura encore. Pourquoi? Enfin, pense à toi. Non, c'est devenu, justement, une ta'ava. Ça veut dire, toi, d'abord, tu dois faire Torah et Mitzvot. Toi, tu dois faire Torah et Mitzvot avant. Tu dois penser à toi, tu peux pas dire, tu sais quoi, moi je l'oublie Torah et Mitzvot, je fais pas Torah et Mitzvot, je vais aller travailler comme un âne batté pour donner, pour que l'autre ait fait Torah et Mitzvot. C'est bien, Kol HaKavod, mais on te dira, et toi? Pourquoi toi t'as pas fait Torah et Mitzvot?
Il n'y a pas Zebulon et Issachar.
Oui, mais quand même, ça n'empêche pas que toi tu dois faire Torah et Mitzvot. Tu peux pas, toi, ça veut dire, c'est pas Kras Vishalom, tu es infirme dans la tête et tu comprends rien. Même si tu comprends rien, de façon en réalité, j'ai envie de te dire, Aïkar, tu t'assois, t'étudies, t'as compris, t'as pas compris, c'est pas grave. Tu as étudié. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, il faut penser à toutes ces choses-là et se dire, écoute, la finalité de ce monde, d'accord, c'est que je vais me retrouver un jour devant Hachem. Hachem, tu peux pas l'embrouiller et il faudra que tu rendes des comptes. Alors Hachem, il ne va pas te dire pourquoi tu n'es pas devenu Sarah Imenu, pourquoi tu n'es pas devenu Avraham Ivenu, d'accord? Pas du tout. Il va juste te dire pourquoi tu n'as pas été Martine. Et toi, tu vas dire, oh, je ne sais pas, bébé. Je ne sais pas. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais embrouillée. J'ai donné de l'importance à ce monde-ci, j'ai oublié que j'avais la Neshama. Tu comprends? C'est ça l'histoire. C'est pour ça que je te dis, Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il ne va pas nous abandonner, il nous a envoyé Rabbeinu. Et Rabbeinu, il va nous emmener vers tout ça. Alors tu vas me dire, mais quand? Quand? T'inquiète pas. Du moment que tu t'es attaché au tzaddik, le tzaddik, il va s'occuper. La tchouva, ce n'est pas juste de dire, allez hop, je mets le costume. La tchouva, elle est dans ton cœur. Si dans ton cœur, tu n'as pas nettoyé, si tu n'as pas enlevé, ça veut dire que tu n'as pas fait la brit mila dans ton cœur, tu n'as pas enlevé justement ce prépuce, cette écorce, alors tu n'as pas fait de chouva, tu auras beau mettre le costume, la perruque, le machin, mais que ton cœur il est sale, tu n'as rien fait. Et qu'est-ce que c'est Breslev? C'est un cœur de chair. Rabbeinu, avec ses enseignements, il va t'emmener à avoir un cœur de chair. Et quand tu as un cœur de chair, alors tu commences à avoir, à ressentir et à percevoir ta neshama. Tu commences à percevoir justement, Kélou, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça tout le travail. Comment est-ce qu'on va commencer? En allant chez Akadosh Baruch Hu. En lui disant, Ribono Shel Olam, j'ai tellement envie de me rapprocher de toi. J'ai tellement envie que tu me prennes et que tu m'ouvres la porte de ton palais.
Qu'est-ce que tu veux dire par un cœur de chair?
Un cœur de chair, parce que on a, si tu remarques bien, on a un cœur de pierre aujourd'hui. Ah. Avant de t'émouvoir, avant de te faire un petit peu sentir quelque chose,
il t'en faut
pas mal. Tu comprends? Et le tzaddik, justement, lui, il vient et il va avec ses enseignements, avec le travail, parce que c'est tout un programme, tu comprends? Il va doucement te si tu veux ramollir toute cette pierre, il va la faire partir pour qu'à la fin va jaillir ce cœur de chair. Il est là, le cœur de chair, tu comprends? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est tellement insensible à notre propre âme? Qu'est-ce qui fait qu'on s'en fout de notre âme? C'est que t'as un cœur de pierre, t'as même plus pitié de toi-même, tu comprends? C'est ça. Et comment tu vas faire pour que ce cœur de pierre doucement, hein, pas trop vite, Rabbeinu il a dit en plus, les hâtes. Comment tu vas faire? Il te beau des doutes. Encore tu vas chez Hachem. Encore tu frappes à la porte comme un petit enfant. T'arrives pas à parler, c'est pas grave. C'est pas grave. Même de ton silence à Kadosh Baruch Hu, mais tu vas tous les jours. Hachem, aide-moi. Hachem, je veux rapprocher de toi. Ne te sens pas ridicule. Tous les jours, c'est comme si tu prenais un tout petit marteau et toujours tu... Hop, un petit coup. Des petits morceaux, des tout petits morceaux. Jusqu'à qu'un jour, on va y arriver. Et le but, ce n'est pas d'attendre un résultat. Parce que si tu attends le résultat, tu vas être en dépresse. L'essentiel, bien sûr, quand tu attends un résultat, tu es déprimé parce que tu te dis, mais...
Ça fait 4 ans que tu n'as pas la force.
Bidouk, ça fait tellement longtemps. Mais regarde, même nous, Combien de temps on attend Machiav? À la fin, on pourrait dire, écoute, j'en ai marre. Ouais, c'est lourd à la fin. Combien on tape, on demande.
Et... même, tu vois, d'attendre la réalité, c'est encore notre imagination, parce qu'on s'imagine qu'on va avoir telle chose, et ça nous empêche donc de voir.
Tout à fait. Tout à fait, parce que toi, tu veux une chose, et tu crois qu'une chose, elle est bien.
Mais en fait, tous total, les jours, toute chaque seconde.
Akadosh Baruch Hu, lui, il sait ce qu'il veut de toi, il sait où il veut t'emmener. Donc lui, il va te donner autre chose. C'est pour ça. Hachem, tu sais ce que je veux? Moi, je veux que tu m'aides à faire ta volonté. Ta stricte volonté. Je ne veux pas ma volonté à moi, parce que ma volonté à moi, en fait, elle est tronquée par les images, par la société, par le truc. Je veux ta volonté. Je veux chercher ta volonté qui va, même si je dois sortir de ma zone de confort, aide-moi. Tous les jours, on demande à Kadosh Baruch Hu. Même si... paradoxalement, tu fais n'importe quoi. C'est-à-dire, tu continues à t'habiller comme tu t'habilles, tu continues à aller au restaurant, ta rêve, tu continues ta vie. Mais à côté de ça, comme Avraham Avinu, tous les jours, tu demandes, parce que tu sais qu'il y a Hachem, tu sais qu'il y a la tchouva. Et la tchouva, c'est ta meilleure amie. Jamais tu vas trouver une meilleure amie que la tchouva. Elle est là, tout le temps, prête pour toi. Elle t'attend. Même dans les pires moments... toujours, tu lui dis, je voudrais faire, tu vois, je suis là. Je suis avec toi, je t'accompagne, je ne t'abandonne pas.
Elle est rassurante.
Elle est plus que rassurante, bien évidemment. Donc ça, c'est le travail qu'on doit faire. On n'attend pas ni un résultat, ni rien. On sait une chose. Nulle part dans la Torah, il y a marqué, tu dois réussir. Et Rabbeinu, dans tout ce qu'il te dit à chaque fois, qu'est-ce qu'il te dit? Le ratson. L'essentiel, c'est la volonté. Tu as une volonté. C'est vrai que d'un côté, je mène une vie aucun rapport. À cause de qui, à cause de quoi, on rentre même pas là-dedans, on s'en fout. L'idée, elle est que oui, si tu regardes ta vie, c'est aucun rapport. Mais je lâche pas la volonté. Cette volonté qui a animé nos patriarches, cette volonté qui a toujours été là, c'est l'essence même du peuple juif. La volonté, j'abandonne pas. Je suis au plus bas, c'est tout noir, je m'en fiche, je continue de vouloir.
Et ben ça, on a le droit de pas le droit, mais est-ce que c'est bien? Alors on prie, on dit à Hachem, aide-moi, et on demande quelque chose de précis.
Tu peux, personne t'empêche de te demander. D'accord. Avec Hachem.
Tu demandes quelque chose de précis, mais tu sais même pas si c'est bien pour toi. Mais tu penses que c'est bien pour toi. On peut continuer.
Allez. Tu peux dire aussi à Hachem, Ribono Shel Olam. Moi, je te demande une chose, mais peut-être que ce n'est pas ta volonté. C'est pour ça que moi, je veux ta stricte volonté.
Voilà,
c'est pareil pour
Asgibog. Oui, c'est
tout,
ça.
Bien sûr,
ça,
exactement.
Voilà. C'est ça, c'est... tu dis, tu veux une chose, tu t'obstines sur cette chose, mais en réalité, tu te dis, je ne sais pas. Donc, en fait, c'est mieux de dire...
Je vais te dire une chose. À la finale... Si tu t'accroches à Hachem, si tu t'accroches véritablement à l'aïdbo des doutes,
ouais.
Tu verras que tu ne demanderas plus rien.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'en réalité, tu n'as plus aucun besoin, tu n'as plus aucun dire, tu veux une seule chose, faire tchouva. Tu veux la volonté d'Hachem. Parce que tu ne sais pas, parce que est-ce qu'on connaît, nous, l'histoire? On ne la connaît pas.
C'est ça, on ne sait pas.
Hachem, tu sais, toujours tu dis Hachem, aide-moi à faire tchouva, aide-moi à me rapprocher de toi, aide-moi à savoir c'est quoi ta volonté, comment tu veux que je fasse, guide-moi. Ne me laisse pas me tromper, ne me laisse pas... Je veux ta volonté.
Voilà.
Et quoi que je fasse, je reste accrochée à toi. En fin de compte, ta discussion,
quoi qu'il
elle
arrive,
est plus...
Je reste accrochée
oui,
à toi.
Ta discussion, elle est plus... Je veux ça, je donne-moi veux ça. Il y a, la matérialité, elle n'existe même plus. Parce que de toute façon, c'est Hachem qui nous donne, il va s'occuper. Il s'occupe, la fourmi, il ne va pas s'occuper de nous.
Tu vas demander,
tu comprends?
Par exemple, tel zibouk pour tel fils, telle fille, tel machin.
Tu demandes à Hachem ce qui est bon pour mes enfants, ce qui est bien pour moi, ce qui est bien pour mon couple, ce qui est bien pour ma... ce qui me guide. Bezrat Hachem, qu'on soit tous zochés si Dieu veut.
Amen.
De pouvoir véritablement s'attacher au but final Bezrat Hachem et à la photo finale.
Amen.
Bezrat Hachem.
Oui. Alors, quand je suis partie à Ouman, le premier jour où on est parti voir Rabbi Nachman, le vendredi soir, j'étais un rêve. J'ai rêvé que c'était dans